de philosophie critique par le Père Marie Dominique Philippe à Saint-Jodard le 27 novembre 1992.
Est-ce que vous pouvez préciser ce que veut dire saint Thomas lorsqu'à la suite d'Aristote, il affirme que le signe de l'immortalité de l'intelligence, c'est l'universel? Oui, c'est dans la somme, ça. Cela veut-il dire qu'il ne pourrait y avoir d'abstraction de connaissance de l'universel si mon intelligence n'était pas déterminée par quelque chose au-delà des qualités sensibles, c'est-à-dire par la forme intelligible, c'est-à-dire par ratio entis, forme intelligible, primo cadit in intellectus ens. Tout est là. Cette fameuse phrase d'Avicenne que saint Thomas répète 173 fois dans son œuvre, selon une thèse qui a été faite à la grégorienne. Petite thèse intéressante. Primo cadit in intellectus ens. La première chose que l'intelligence reçoit, c'est ce qui est. Or, Aristote, dans le Dianima, dit que c'est dans les formes sensibles que l'intelligible, que les intelligibles existent. Que veut dire ce, voilà, c'est toujours la relation entre le devenir et l'être. Ne séparons pas le devenir de l'être et comprenons que l'être est dans le devenir. N'est-ce pas plutôt la découverte du jugement d'existence que mon intelligence est déterminée par ce qui est, très bien, primo cadit in intellectus ens, ce qui est, donc par quelque chose au-delà de toute assimilation, que je détermine ce signe de l'immatérialité de l'intelligence. Oui, n'oublions pas, saint Thomas est théologien et pas philosophe. Quand il écrit la somme, il faut tout le temps se dire ça. Si vous voulez chercher en lisant la somme la philosophie, attention, la philosophie est présente mais utilisée. Alors, en théologien, où est le signe le plus net de l'immortalité de l'intelligence? Posez-vous la question comme ça. C'est l'universel. C'est ce qui est le plus manifeste. La science existe grâce à l'universel. La philosophie existe grâce à l'universel. L'universel, c'est le fruit de l'intelligence. Donc c'est ce qui est le plus manifeste. C'est ce que l'intelligence aime le plus. C'est le plus bel enfant de l'intelligence. Une mère dit que son petit enfant, c'est le plus mignon de tous les enfants. Et bien, mon intelligence, quand elle est en face de l'universel, dit ce qu'il y a de plus mignon. C'est l'universel. C'est le signe que l'intelligence, dans son opération d'intelligence, est au-delà du sensible. Tout simplement. C'est l'intelligence opérer avec un organe sensible n'y aurait pas l'universel. L'universel est un être de raison, unum ad multa. Or le sensible, c'est unum, c'est un concret. Pour être un dans le multiple, faut être au-delà du sensible. L'universel est le fruit d'une intelligence qui opère au-delà de tout organe sensible. Mais c'est uniquement ça que veut montrer saint Thomas. En théologien, donne de signes plus visibles. Ce qui est dit là est très juste au point de vue critique. Au point de vue critique, c'est très vrai. C'est parce que l'intelligence atteint ce qui est que l'intelligence dépasse le sensible. C'est parce que l'intelligence atteint ce qui est qu'elle peut atteindre l'universel. C'est le point de vue critique. Or, ce que fait saint Thomas dans la Somme, c'est de montrer le signe de l'immatérialité de l'intelligence. Pas plus. Ce n'est pas une preuve de l'immortalité de l'âme. Au sens fort, c'est le signe. S'il y a une question là-dessus, il faut le dire tout de suite. Hein, parce que c'est important. C'est important, cette question. Vous voyez, on a utilisé apologétiquement ce que dit saint Thomas dans la Somme. Alors, ce n'est pas de l'apologétique, c'est de la théologie. L'apologétique est toujours du côté des possibles. Tandis qu'au contraire, la Somme, au point de vue théologique, est face à ce qui est. Et ce qui est, c'est que l'intelligence, c'est vrai, quand elle connaît, elle abstrait. Et le fruit de sa connaissance a un mode universel.
On va dire que l'abstraction universelle est preuve de...
Pas une preuve, un signe. C'est un signe, c'est pas une preuve. Pourquoi voulez-vous que ce soit une preuve? C'est un fait. C'est pas une preuve. Une preuve, c'est le principe. Qu'est-ce qui me permet de dire métaphysiquement que mon intelligence est immatérielle? C'est quoi? C'est le contenu même de ma connaissance. Et c'est pas l'universel qui est en mode. Le contenu de ma connaissance, c'est pas l'universel, c'est l'être, ce qui est. Alors là, vous pouvez dire qu'il y a un principe.
Donc, on peut dire qu'on ne découvre pas, qu'on ne trouve pas la matérialité de l'âme, mais qu'on est face.
Voilà, exactement. On montre un signe. Si l'intelligence n'était pas si matérielle, il n'y aurait pas l'universel. Vous voyez, condition sine qua non. Ce n'est pas une preuve.
Donc là, le dos aussi, c'est ce que c'est.
La manifestation. C'est ce qu'il y a de plus clair. Vous voyez. Tandis que reprendre, l'intelligence est capable d'atteindre ce qui est, en tant qu'il est. Voilà le contenu. Et voilà la preuve. Vous voyez. La différence entre les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous voyez, et alors on comprend très bien que apologétiquement, on a vu ça d'une preuve, vous voyez. Parce que, au fond, l'apologétique, constamment, prend des conditions sine qua non. C'est plus simple à comprendre, la condition sine qua non, vous voyez. C'est l'un étant que le savant comprend les conditions sine qua non. C'est pas une preuve. Mono, quand il montre l'origine de la vie, il prend la condition sine qua non. Pour qu'il y ait vie, il faut ADN. Mais c'est pas la preuve de la vie. Pour qu'il y ait, vous voyez, c'est la logique stoïcienne qui montre toujours la condition sine qua non. Et à partir de là, on en fait une preuve. C'est pas juste, c'est apologétique ça. La différence entre la condition sine qua non et la cause propre. C'est très important.
Comme c'est un des préambules, la fidéi, l'immortalité de l'âme,
oui.
Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire, comme pour l'existence de Dieu, de donner plus qu'un signe, de montrer quelle serait la voie?
Oui, mais attention, ça c'est en philosophie. Vous voyez, faisons attention. En philosophie, je dois, autant que je le peux, montrer l'immortalité de l'âme. À quel moment puis-je montrer l'immortalité de l'âme? en philosophie. Ce n'est pas en philosophie du vivant. C'est dans un jugement de sagesse. Vous voyez ? Après la preuve, après avoir découvert l'existence de Dieu, après avoir découvert la création, je peux montrer que l'âme est nécessairement créée immédiatement par Dieu et qu'elle est immortelle. Parce qu'elle est créée immédiatement par Dieu. Vous voyez ? Autrement dit, c'est dans un jugement de sagesse que je montre l'immortalité de l'âme. C'est pour ça que dans le De Anima, où Aristote regarde l'opération, il ne montre pas l'immortalité de l'âme.
Est-ce que le théologien n'a pas le devoir de montrer, d'indiquer au moins quel serait le chemin de cette preuve, comme on fait pour l'exemple ?
Le devoir, non, puisque ça c'est de la philo. Le théologien n'a pas le devoir de faire de la philo. Il l'utilise. Vous voyez ? Il l'utilise. Et montrer ça, ça serait très vite de l'apologétique. Il dit, cette question-là, le philosophe peut la démontrer. Alors, contre Agentiles. Vous voyez ? Tandis que, dans la somme, il montre le signe, c'est ce qu'il y a de plus visible. Personne ne peut récuser l'universel. Personne. Puisque c'est de la logique. Vous savez que la logique, c'est ce qu'il y a de moins critiquable. Tout le monde admet la logique comme non critiquable. Or, la logique, c'est ce qu'il y a de plus critiquable. Mais c'est très manifeste. Et très facilement, quand on met la critique au-dessus de la métaphysique, c'est qu'on met la logique au-dessus de la métaphysique. C'est très curieux, ça. Ça serait intéressant à voir, au point de vue critique. Mais la logique, c'est la plus manifeste. Il n'y a pas de science s'il n'y a pas l'universel. Donc ça, c'est très manifeste, parce que personne ne niera l'existence des mathématiques. Personne. Tout le monde accepte. Et la fameuse phrase d'Aristote, il ne faut jamais oublier, hein. Les mathématiques sont nées en Égypte parce que la caste sacerdotale avait des loisirs. C'est une phrase extrêmement importante pour comprendre l'origine des mathématiques en Égypte. Et on ne dit pas que la métaphysique est née en Égypte. Elle est née en Grèce. Elle a une couleur grecque. Tandis que les mathématiques ont une couleur égyptienne. Alors, on continue la critique. J'ai essayé de vous montrer, je ne reviens pas là-dessus, hein, comment le jugement n'est pas premier. Avant le jugement, il y a l'appréhension. Qui n'est pas une opération autonome, mais qui est élément du jugement. Mais cet élément du jugement est transformé dans le jugement. Et le jugement a un objet propre, ce qui est. Jugement d'existence. Ceci est. Donc le jugement seul atteint l'être dans son exercice le plus élémentaire. Ceci est. Et comme le jugement atteint ce qui est, l'exister comme tel ne peut pas être assimilé. Il est irréductible à l'assimilation intentionnelle de l'appréhension. Ce qui est très important à comprendre, ça, ce qui montre bien que l'intelligence n'a pas un mode d'assimilation, contrairement à ce que dit Sartre quand il fait la critique de la scolastique et Christ. Il dit cette philosophie de l'assimilation. Alors, il dit ça dans Situation 1. Un passage extrêmement intéressant dans un autre. Ça montre que l'intelligence assimile et adhère. Les deux mouvements d'intelligence. Et c'est intéressant de voir ces deux mouvements d'intelligence pour montrer que, de fait, notre intelligence n'a pas un mode simple. Notre intelligence est complexe. Elle n'est pas simple. C'est l'appréhension qui est simple. Simplex appréhension. L'intelligence est complexe dans son adhésion au réel. Elle est directe dans son adhésion au réel, mais elle n'assimile pas l'existé. Qu'est-ce qu'elle assimile? Les formes, les déterminations, les quantités. Faut bien saisir ça. Oui. L'appréhension regarde la quantité. Bon, je reviens pas sur la quantité. Hein. Commencez à comprendre ce que c'est. La quantité, c'est-à-dire les déterminations essentielles. La quantité, c'est les déterminations essentielles. Et l'appréhension assimile intentionnellement. L'assimilation intentionnelle de la forme. Première opération, opération élémentaire. Deuxième, l'intelligence adhère à ce qui est. Dans un jugement. Mais c'est intéressant de voir qu'on trouve la quantité exister. Essence exister. En gros. Ça demande à elle de faire ce parallélisme. En tout ce qui est créé, il y a une distinction entre essence et existé. L'intelligence reflète cette distinction quantité-existé. Elle adhère à ce qui est. Ceci est. En adhérant, elle reconnaît qu'il y a quelque chose qui la transcende, quelque chose qui la dépasse. Et ceci, dès son point de départ, l'intelligence humaine reconnaît tout de suite qu'il y a quelque chose qui la dépasse dans toute réalité existante. Donc elle n'est pas le reflet de la réalité. Ce que dit Garodi. L'intelligence ne reflète pas la réalité. L'intelligence assimile en abstrayant et elle adhère au réel en reconnaissant que le réel est avant elle. On ne peut adhérer qu'à quelque chose qui est au-dessus de nous. Et vous comprenez que c'est très important de saisir tout de suite, dès le point de départ du jugement, qu'il y a quelque chose qui nous dépasse pour pouvoir, à partir de là, montrer qu'il y a une première réalité qui est source. Si je reste dans l'assimilation intentionnelle, je ne pourrai jamais dépasser mon intelligence. Et je resterai dans le vécu de l'intelligence. Donc si je confonds appréhension et jugement, si je ramène le jugement à l'appréhension, je ne peux jamais découvrir quelque chose qui dépasse mon vécu intellectuel. Ça, il faut en avoir l'évidence au plan critique. Donc, deux aspects extrêmement importants du réalisme. C'est là où vous saisissez, au plan critique, la distinction entre le plan critique, le plan d'une philosophie idéaliste et d'une philosophie réaliste. La philosophie réaliste est l'assimilation au service de l'adhésion. La philosophie idéaliste met l'adhésion au service de l'assimilation. C'est peut-être là où je peux saisir comment la philosophie et la métaphysique, dans son jugement d'existence, est antérieure à toute critique. J'explique. Je critique ce qui est connu. Et je ne peux critiquer que le vécu de mon intelligence. Je ne peux critiquer que ce que je possède. Qu'est-ce que je possède? C'est le vécu de mon intelligence. Donc tout ce qui est assimilé, tout ce qui est assimilé est critiquable. Parce que je peux l'animer, je peux l'analyser. Tandis que ce qui est au-delà, à qui j'adhère, ceci n'est pas critiquable. Et donc, est saisi par la métaphysique. La métaphysique saisit quelque chose qui est au-delà de la critique. Ceci est. L'être est au-delà de la critique. Alors, vous voyez, ce qui est très curieux et très intéressant à bien préciser, c'est que ce qui est critiquable, c'est le vécu de mon intelligence. C'est-à-dire, tout simplement, mes concepts. L'intentionnalité et non pas ce qui est. Ce qui est affirmé dès le point de départ, comme au-delà de mon intelligence, au-delà de l'assimilation, dans le jugement d'existence. Tandis qu'au contraire, dans l'idéalisme, tout est critiquable. Et la critique est antérieure au jugement d'existence. Et donc le jugement d'existence est soumis à la critique. Quelqu'un qui dit que le jugement d'existence est soumis à la critique reste dans l'idéalisme. C'est qu'il a soumis le jugement d'existence à l'assimilation. Et c'est ça qui est intéressant dans l'analyse de l'appréhension et du jugement. C'est que je peux tout de suite noter cela. Que le jugement d'existence reconnaît que ce qui est au-delà de la critique, au-delà de l'intentionnalité, au-delà de l'assimilation, et que je ne critique que ce que j'ai assimilé. Je comprends très bien, je ne peux critiquer que ce qui est assimilé. Oui. Quoi? Critiquable? Oui, à cause de l'abstraction. Blanc comme blanc existe sous un mode universel. Dès qu'il y a abstraction, c'est critiquable. Parce que l'abstraction n'est pas la réalité. C'est vous qui abstrayez. Et c'est critiquable parce qu'il y a deux abstractions. Et que très facilement on confond les deux. Il y a une abstraction universelle et une abstraction formelle. Et toute la critique joue entre les deux. Et ça, c'est le fondement de la critique. S'il n'y avait qu'une abstraction naturelle, il n'y aurait pas de critique. C'est très important de voir à quel moment la critique est possible. Vous voyez? Autrement dit, vous êtes lucide quand je critique. Or, il y a l'abstraction formelle, blanc, l'abstraction universelle, blanc, et l'abstraction formelle, blancheur, blanc de blanc. Ce par quoi le blanc est blanc, c'est l'abstraction formelle. Et la science n'existe qu'au niveau de l'abstraction formelle. Alors je suis d'accord avec vous que blanc n'est pas... Vous voyez, blanc comme tel relève d'une abstraction universelle, donc naturelle. Et je reconnais qu'elle n'est pas critiquable. Mais cette abstraction universelle est source d'une autre abstraction, qui est l'abstraction formelle, qui elle est critiquable. C'est pour ça que c'est, la critique commence avec l'abstraction et non pas avec le jugement. Le jugement d'existence est au-delà. Et c'est cela qui permet de dire que la philosophie, la métaphysique est première par rapport à la critique. Et ça, comprenez bien ça, autrement. N'arriverez plus à garder le réalisme. C'est dans le jugement d'existence que je maintiens le réalisme philosophique, c'est-à-dire le primat d'une connaissance métaphysique sur la critique. Mais l'être n'est pas critiquable. L'intelligibilité, ce qui est intelligent, est critiquable. Alors, le jugement adhère à la réalité. Et parce que le jugement adhère à la réalité, quand je suis lucide dans mon jugement, je comprends que ce que je connais, peut être conforme à la réalité, parce qu'il n'est pas identique à la réalité. Ce qui est identique n'est pas conforme, et plus il est identique, il fait qu'un. Ma connaissance intellectuelle implique tout le temps une transposition, une transformation. Il y a un mode abstrait. Et ceci est vrai pour toute connaissance intellectuelle. Mais la connaissance intellectuelle philosophique veut tout le temps revenir au jugement d'existence. Alors je comprends que le jugement aura comme qualité première d'être vrai, de reconnaître que ce que je dis est adéquat à la réalité. Mais pour pouvoir dire ça, il faut justement reconnaître que mon jugement peut atteindre ce qui est. Et je peux reconnaître que ce que j'assimile est conforme ou non à la réalité. Donc la qualité première du jugement, c'est d'être vrai. Dans l'ordre de l'appréhension, il n'y a pas de vérité, il y a identité formelle. J'assimile. Tandis que dans le jugement, puisque j'adhère à quelque chose qui est premier, ce qui est, il peut y avoir adéquation ou non-adéquation. Donc il peut y avoir vérité ou erreur. Oui, c'est très important de saisir la naissance de la vérité. À quel moment la vérité apparaît dans ma vie intellectuelle? La vérité apparaît dans ma vie intellectuelle à partir du jugement. Parce qu'il y a adhésion au réel. Et que le réel reste la mesure de mon jugement. La mesure de mon jugement n'est pas ce que je connais, mais la réalité elle-même. et parce que la mesure du jugement est la réalité elle-même en tant qu'elle est. Je saisis à partir de là la mesure de ma vérité dans mon jugement. Et ce qui est la mesure de mon jugement. Et je distinguerai le vrai formel et le vrai ontologique. C'est une distinction extrêmement importante que Heidegger refuse. C'est intéressant de voir là comment je me sépare de Heidegger. Parce qu'il est encore trop idéaliste. Je reviens là-dessus, hein, pour que vous compreniez bien ça. Heidegger a toute une théorie de la vérité. Je prends Heidegger parce que c'est quand même le dernier qui a vraiment pensé. Après Hegel. Et qui veut penser l'être. Alors Heidegger oriente toute sa son ontologie fondamentale sur le problème de la vérité. En disant que la vérité aletheia c'est dévoiler. Dévoiler ce qui est. Heidegger refuse que la vérité formelle soit dans l'intelligence. Pour lui, la vérité, c'est aletheia, dévoiler ce qui est. Et Heidegger fonde son point de vue dans l'interprétation philosophique qu'il donne du mythe de la caverne dans Platon. Dans la République, le mythe de la caverne. Alors, il dit que dans le mythe de la caverne, il y a l'ancienne théorie de la vérité. Et puis, on commence à avoir l'autre vision moderniste de la vérité. C'est l'ancienne vision de la vérité qui est vraie. Et la moderniste, la dépasser. Alors, je m'explique pour que vous compreniez. L'ancienne vision de la vérité, c'est la vérité dite ontologique. C'est la réalité qui est vraie. Et je dévoile cette vérité. La nouvelle notion de la vérité, c'est de considérer que la vérité formelle est dans le jugement. Et pour lui, c'est là où la philosophie grecque a commencé d'errer en regardant la vérité formelle dans l'intelligence. Ce qu'a fait Aristote. Là, il n'est pas d'accord. Il faut être avant Aristote. Et découvrir que la vérité, c'est le dévoilement. Ah, les théas. On dévoile. On enlève ce qui voile. Et la vérité, pour lui, elle est ontologique. L'ontologie fondamentale, c'est la vérité. Elle n'est pas dans l'intelligence. Alors que, pour Aristote, et pour nous, et pour Thomas d'Aquin, qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité est d'abord dans l'intelligence. Je dis qu'un jugement est vrai ou un jugement est faux. Et le jugement est vrai. C'est celui qui est adéquat à la réalité. Je vous affirme que ce que je dis est vrai. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça? Je vous affirme que ce que je dis est vrai. Je veux montrer que ce que je dis est adéquat à la réalité. C'est de cette manière que saint Thomas regarde la vérité dans la question du De Veritate. Question 1, article 1er. Vous connaissez cet article-là, hein? C'est une question disputée. Question 1, article 1. Je crois que vous avez la traduction. J'ai demandé, je crois que ça a été fait. Parce que c'est une question qu'il faut absolument avoir lue, ça. Saint Thomas reprend la définition de saint Augustin, la vérité adéquatio intellectus ad rem. Alors, il faut bien comprendre, intellectus, c'est-à-dire le contenu de ma pensée est conforme à la réalité. Ce que je dis est vrai, il est conforme à la réalité. Quand je dis par exemple, vous écoutez le cours, vous êtes assis pour mieux écouter et vous grattez pour mieux écouter. Bien, ce que je dis est vrai. Mon intelligence est vraie quand elle dit ça. Si vous vous levez parce que la cloche sonne et que je continue de dire vous êtes assis, je suis faux. Je dis une erreur parce que vous êtes debout. Alors, vous voyez, c'est curieux. Ma vérité de mon dire change. Si la réalité change. Donc, la mesure de mon intelligence vraie, c'est la réalité. Je ne suis pas à moi-même mesure de ma vérité. C'est bien dommage. C'est la réalité qui mesure mon dire vrai. On est tous d'accord là-dessus. Hein. Donc, si la réalité mesure mon dire vrai, je peux distinguer le vrai formel qui est dans l'intelligence et le vrai ontologique qui est dans la réalité. Parce que le problème de la vérité touche directement le jugement. La vérité naît à partir du jugement. Elle n'est pas dans l'appréhension. Or, le premier jugement, c'est le jugement d'existence. Ceci est. La vérité est donc liée à l'exister. Je peux donc distinguer le vrai formel et le vrai ontologique. Et je dois revenir sur cette distinction puisqu'elle est niée par Heidegger. Et je vois que si je nie cette distinction, je ne respecte plus le réalisme, c'est-à-dire le primat de la réalité existant sur ce que je dis. Ramener la vérité toujours au problème de la réalité existante, c'est oublier que mon intelligence est capable d'atteindre le réel. Et donc, si mon intelligence n'est pas capable d'atteindre le réel, c'est pas la peine de parler. Parce que tout ce que je dis est fantasia, c'est de la fantaisie. Ce n'est pas conforme à la réalité. Et c'est pour ça que Heidegger reste sur l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être ? Dis-moi plus. Pourquoi ? Parce que la vérité, c'est l'être qui se manifeste. Si la vérité, c'est l'être qui se manifeste, je reste uniquement à dire qu'est-ce que c'est que l'être ? impressionnant de voir ça. Si au contraire, je reconnais que mon intelligence est capable de dire quelque chose de vrai, mais en étant conforme au réel, je peux analyser ma connaissance et voir ce qui dans ma connaissance est vrai et ce qui dans ma connaissance n'est pas vrai. Parce que je reconnais que mon dire, que ma connaissance possède quelque chose de vrai. Elle dit quelque chose de vrai, si elle est conforme à la réalité. Je distingue donc le vrai ontologique, qui est la réalité qui existe, mesure de mon intelligence, et ce que moi-même je connais. Si je ne reconnais pas cette distinction, je risque toujours de dire c'est inutile de connaître, puisque n'est vrai que la réalité, ou d'idéaliser, puisque la réalité n'est présente à moi que lorsque je la connais. À ce moment-là, c'est mon intelligence qui seule est vraie. Et le dilemme est, c'est très curieux, le dilemme est là, entre une vérité qui est uniquement le point de vue du vrai ontologique, ou le vrai qui est à la fois dans mon intelligence et dans la réalité. Je reconnais que lorsque je connais intellectuellement, je transpose la réalité, puisqu'il y a l'abstraction. J'abstrais. Abstraire n'est pas un mensonge. C'est transposer. Alors, là, le problème se posera. Comment une connaissance peut-elle être vraie? Et qu'est-ce qui me permet de dire qu'elle est vraie? Donc on viendra sur ce problème de la vérité. Réfléchissez-y. C'est très important. Et ça, c'est un des grands problèmes critiques. Est-ce que mon intelligence humaine est capable d'atteindre la vérité? Ou est-ce que tout ce que je dis est faux? Si tout ce que je dis est faux, arrêtons les cours. Arrêtons de lire. Puis mangeons. Et buvons. Thank you.